Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs.
Dear listeners.
Bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manon Vandenbusch et d'Olivier Chenevier. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes Olivier, architecte paysagiste, et Manon, paysagiste, tous les deux diplômés.
Oui.
Et vous êtes surtout lauréat européen sur le projet du Grand Reims.
Oui.
C'est ça.
C'est ça. Alors, vous allez nous raconter tout ça, mais avant, on va parler du goût, des plaisirs de la table. Alors, aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer, chacun à votre tour, un souvenir gustatif? On commence par...
Ah,
allez,
moi, je peux y aller.
Allez, vas-y, alors,
on
je t'en
a
prie.
Beaucoup de choses à dire sur ce sujet, oui. Parce qu'alors nous,
fin gourmet.
On est de très fins gourmets. La cuisine, le goût, c'est une passion qu'on partage en commun avec Olivier. C'est une manière pour nous de prendre des pauses, de réfléchir aussi. Et c'est un moment qu'on partage ensemble ou séparément, d'ailleurs. Mmh. Et pour le coup, c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, on a des moments comme ça où on va se tester un petit peu des... On a déjà fait un étoilé. Je crois.
Deux étoilées,
ouais.
Ouais, je crois. Ouais.
C'est un petit plaisir qu'on s'offre de temps à autre.
Bah, on aime beaucoup. Moi, j'adore la cuisine. Je cuisine presque tous les soirs.
Ouais.
Je prépare des petits plats pour le lendemain, pour Manon, pour moi. Parce qu'on habite ensemble, hein, justement.
Ouais.
Enfin, on est en couple. Et effectivement, moi, j'ai toujours aimé manger. Dans ma famille, mon père est un très bon cuisinier. Mm.
Professionnel ou...
Non, pas non, professionnel, non, amateur, non, mais oui. Tous les dimanches, il y avait le plat du dimanche midi.
Très important.
Très important. Et effectivement, je pense que c'est là que c'est venu un peu ce goût de la cuisine.
Mm. On est quand même sur des plats traditionnels français,
oui,
en vrai. Général, parce
oui,
que toi, tu as été habitué à ça.
Oui,
de
c'est
toute
vrai.
Manière.
Mais pourquoi aller chercher ailleurs, ce qui est quand même assez formidable ici.
Oui, c'est vrai. Mais
c'est pas l'ouverture d'ailleurs.
Non, effectivement. Mais après, on mange beaucoup de saison, on fait très attention à ce qu'on mange. On évite d'acheter des légumes pas de saison. Donc,
ouais.
on n'a pas forcément les plats préférés, je dirais, varient en fonction des saisons.
Ouais, complètement.
Là, on est dans des trucs quand même assez lourds. Hein,
oui.
Souvent. Mais très bon. Hein, moi, j'adore les coquilles Saint-Jacques, c'est très spécifique. C'est vraiment... ou alors le poisson, le bar beurre blanc,
ouais,
c'est
le bar
traditionnel,
blanc, c'est...
mais c'est vraiment... Je pense que c'est mon plat préféré.
Je pense que c'est notre plat préféré.
Ouais, effectivement.
On
ouais.
fait pour les fêtes ou les occasions particulières.
Voilà.
Alors moi, je suis plus sur la partie sucrée, par contre, sur le coup. Ça, c'est notre différence. Et alors moi, j'adore faire tout ce qui est les tartes tatin, tout ce qui est fruits rôtis, toutes ces choses-là.
Les opéras.
Ah, les opéras. L'opéra, c'est mon gâteau préféré, effectivement.
Vous le faites ?
Alors non, je ne me suis jamais lancée là-dedans parce que c'est un peu complexe.
Oui.
Mais j'ai
c'est
trouvé,
très précis.
Ouais, j'ai trouvé la boulangerie-pâtisserie qui en a des très bons et c'est très rare maintenant.
C'est vrai ? C'est vrai ?
Ouais, c'est de plus en plus rare. Donc j'en suis très fière.
Vous pensez que vous pouvez partager l'adresse ou pas ?
Alors, c'est dans notre quartier. Alors, c'est au croisement de la rue Cardinal Lemoine et rue Monge.
Ouais.
C'est une boulangerie à la devanture bleue. Mais le nom, je ne l'ai plus exactement. Mais
voilà. À la recherche.
À la recherche de la boulangerie.
Voilà.
Très bon croissant aussi.
Oui, excellent.
Un souvenir gustatif ?
Ah, l'étoilé qu'on a fait, le Sola.
Ouais, Sola, c'était vraiment quelque chose.
Là, c'était un restaurant fusion franco-japonais. Et je pense que là où on a été vraiment scotché, c'est sur la partie dessert, parce qu'on est difficile en fait avec Olivier, on est plus salé de base, donc les desserts, il faut que ce soit assez particulier. Et là, on avait un dessert au sésame noir.
Ouais, en fait, c'était assez rigolo comme restaurant, parce que c'était un restaurant où, bon déjà, il n'y avait pas de menu.
Ouais.
On ne savait pas vraiment ce qu'on mangeait, on va dire, surtout dans la cuisine japonaise où parfois il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas trop. C'était, je crois, il y avait 12...
Ouais, 12 plats.
12 plats, un truc comme ça. Et même le dessert, on pensait que c'était un dessert... On savait qu'il y avait un goût étrange de chocolat et on pensait que c'était un chocolat un peu particulier, mais en fait, il n'y avait pas du tout de chocolat.
C'était sésame.
C'était un dessert au sésame, même au pois chiche sésame. Enfin, c'était super intéressant, un jeu de texture assez chouette.
Ouais.
Et moi, dans ce restaurant, il y avait un plat aussi, il y avait un anguille et foie gras.
C'est le plat signature.
Oh là là, ça, c'était exceptionnel. Hein. Ouais. Ah ouais, ça c'était quelque chose. Je me souviens très bien.
Bon, ça met l'eau à la bouche, comme d'habitude. Alors, là c'était l'entrée plaisir. Maintenant, un autre plaisir, c'est exercer son métier. Et on va commencer par le début. Vous êtes encore jeune, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. Alors, quel est votre parcours jusqu'à présent? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie de paysage et pour Olivier d'architecture? Et quelles ont été vos études?
Je commence? Allez.
Allez.
Alors, moi, j'ai commencé mes études, on va dire, en relation avec le paysage quand j'étais en lycée, parce que j'ai fait un lycée professionnel, le lycée Técoma à Julian-Josas. Déjà, à l'époque... Quand j'étais jeune, je savais que je voulais faire un métier. Au début, je pensais que je voulais être architecte. Bon, au final, je le suis aussi. Et en même temps, j'avais une sorte de sensibilité pour le vivant et à l'époque pour le jardin. Donc, j'ai décidé d'aller en bac professionnel. Et donc là, plutôt une formation en rapport avec effectivement la petite échelle, le jardin, l'entretien, la compréhension du vivant, les techniques de plantation, toutes ces choses-là. Et donc ensuite, très naturellement, j'ai enchaîné sur un BTS, aménagement paysager, pareil à Técoma. Et ensuite, j'ai préparé le concours, fait une petite prépa pendant mes études en deuxième année de BTS. Je suis rentré du coup à l'école du paysage de Versailles, là où par la suite, du coup, j'ai rencontré Manon. Mmh. Et ensuite, donc après mes 3 ans de paysage, j'avais toujours cette idée en tête quand même de pratiquer de l'architecture, ou en tout cas, j'avais une sensibilité à ce métier. Et il me semblait que pour pouvoir travailler de manière pertinente avec des architectes, il était peut-être nécessaire pour moi d'aller le devenir, en tout cas, et essayer de comprendre le métier pour pouvoir mieux travailler ensuite avec. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai postulé à Paris-Malaquais, l'école d'architecture. Et grâce à ma formation de paysagiste, j'ai pu rentrer en fait directement en Master 1. Je n'ai pas fait les 5 ans d'architecture, j'ai fait que le Master, donc les 4e et 5e années à Paris-Malaquais. Et ensuite, ça s'est terminé il y a 2 ans, c'est ça?
Et ensuite, voilà, un an et demi.
Et ensuite, le travail d'agence, mais peut-être je te laisse d'abord...
Oui, avant de parler de notre rencontre à l'école du paysage, c'est vrai que moi, j'ai eu un cursus peut-être plus général que toi, parce que j'ai fait un bac général économique et social.
Il n'y avait pas cette envie de...
Alors, il y avait cette envie, mais je n'avais pas de référentiel pour ça. Tous les deux, on n'est pas issus de famille proche au domaine de l'espace, de la conception. Donc, c'était complètement abstrait et je me référais du coup à des métiers un petit peu comme des mots-valises, architecte, paysager, ça ne venait pas tout de suite. Mais j'avais cette idée d'être architecte d'extérieur. En tout cas, d'avoir cette dimension de l'extérieur. Donc j'ai fait un bac général pour me donner un petit peu le temps de réfléchir à ce niveau-là. J'avais quand même les options de l'art plastique et de la science politique qui m'ont quand même aidé par la suite. La dimension de l'art, je l'ai toujours gardée de toute manière. Et je voulais absolument, après le bac, me lancer dans un domaine qui soit en lien avec l'extérieur. Et j'avais entendu parler d'un BTS agricole qui était au lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye, qui était le BTS aménagement paysager.
Vous venez aussi de l'ouest parisien?
Alors, moi, je viens du côté de Cergy-Pontoise.
Ah oui.
À la base.
Oui, c'est pas très loin.
Et c'était pas très loin. Et donc, je m'étais dit, quitte à entrer dans ce milieu-là, qui est comme un milieu masculin, qui est un milieu physique aussi, je m'étais dit que j'allais commencer par le plus dur, c'est-à-dire le terrain. C'est pour ça que j'ai postulé à ce BTS-là. Et en fait, ça a été une révélation complète. Je suis tombée avec des personnes extraordinaires. Les matières m'animaient complètement. C'était la première fois qu'on touchait finalement à la question du vivant. Et un petit peu à l'esquisse. Et donc, au sein de ce BTS, on m'avait parlé de l'école de paysage de Versailles. Et donc, j'avais fait, sur la deuxième année de BTS, en parallèle une prépa. Donc, qui préparait au concours d'entrée de l'école. Et je l'ai eu tout de suite. Et là, donc, je suis rentrée en école de paysage. On n'était pas dans la même promotion avec Olivier. Moi, j'étais celle en dessous. Ce qui fait qu'on a eu la liberté, lui comme moi, d'exercer vraiment notre sensibilité.
Plus séparément.
Ouais, ouais. On a eu notre sensibilité au vivant de manière séparée, complètement individuelle.
Et c'est bien.
Ouais.
Ça vous a permis savoir qui vous étiez.
Ouais, on est
quelque
venu,
part.
Oui, déjà, par base.
Et
ouais.
Par rapport à cette discipline.
Ouais, bah, complètement.
C'est sûr que la formation de paysagiste, en tout cas à l'école du paysage de Versailles, et je pense que c'est le cas aussi dans les autres écoles de paysage, mais c'est une formation qui est très épanouissante. Mais c'est épanouissant aussi par la dynamique d'atelier, c'est-à-dire le cursus s'organise autour d'ateliers qui durent de 3 à 4 mois, peut-être un peu moins même.
En moyenne, oui.
Et on travaille tous ensemble avec nos promotions. Nous, on était des petites promotions, on était 30-40,
ouais.
Et en fait, tout le monde travaillait, et d'ailleurs, tous les jours de la semaine, parfois jour comme nuit, dans les ateliers. Les ateliers étaient un peu une extension de chez nous, et donc il y avait cette espèce de dynamique d'atelier qui est super épanouissante, parce que derrière, on se poussait entre nous, on se donnait des conseils, on se soutenait aussi dans les moments difficiles. Ça qui fait la spécificité, j'ai l'impression, des écoles de paysage, ou peut-être plus largement des écoles d'art, en tout cas.
Ouais.
Cette dynamique-là, ouais.
Ouais. Alors, vous parliez des moments durs, c'est des moments où il fallait, où vous étiez soumis à des évaluations, ou des moments où, en hiver, il faut sortir et qu'il fait très froid, ou comment... C'était quoi, ces moments durs?
Je pense que c'était plutôt par rapport aux échéances qui étaient soumises sur les rendus, la production. Je pense que la dynamique de physique, elle n'était pas si importante que ça au sein de l'école, parce qu'on nous a vraiment enseigné la conception. Et c'est la conception en tant que telle qui a été assez rigoureuse à intégrer dans notre manière de faire. Et en fait, c'était toutes les semaines qu'on avait des rendus de différentes matières. C'est pour ça qu'on travaillait toute la semaine, les soirs, les week-ends.
Bah, en fait, il y a, qu'on retrouve peut-être en agence, mais il y a cette culture de la charrette qui est, j'imagine...
Qui est dans le paysage, qui existe aussi.
Oui, bien sûr.
Qui existe si on le veut, je trouve, parce que... Alors là, je parle à titre personnel. Moi, je n'ai jamais fait de charrette à l'école de paysage. Ça a toujours été un refus de ma part, parce que je voulais garder un équilibre vie privée et vie étudiante. Et ça ne m'a pas du tout empêché d'aller plus loin que ce que je pensais à la base, parce que j'ai été très bien encadrée. Parce qu'on a cru en mes discours, ou voilà. Et je pense que c'est ça qui est le moteur de l'impulsion derrière de la productivité. C'est pas forcément de travailler...
Ça dépend de chacun, je pense.
Oui, je pense
mais
aussi.
Mais vous devez être organisé et avoir un besoin d'organisation.
Ouais.
Sans doute, oui.
Ouais.
C'est très clair.
Ouais.
Parce que moi qui viens de la génération de la culture de la charrette, j'ai encore... Je suis très marquée par ça et je travaille sous la pression. Et j'arrive à sortir des choses plus intenses sous la pression. C'est ce qui est un petit peu plus douloureux et moins rassurant, je reconnais. Alors, et vous, Olivier?
Bah, moi, c'est ces moments douloureux. C'était plus, effectivement, ces périodes avec peu de sommeil, beaucoup de doutes aussi, comme toujours à la fin d'un rendu, enfin plutôt la veille du rendu, on trouve que notre projet est catastrophique, qu'il n'y a rien qui va, alors qu'en fait, le lendemain, souvent tout va bien, mais c'est vraiment un grand classique, hein, de notre formation.
Oui.
Mais après, encore une fois, effectivement, en tout cas à l'école du paysage de Versailles, je n'avais pas l'impression que la charrette était indispensable.
L'école de paysage de Versailles, c'est une des plus prestigieuses, toujours?
Ça dépend de la manière dont on le constate. C'est-à-dire que dans la conception, je trouve qu'elle a quand même fait ses preuves encore aujourd'hui au sein d'Europan, parce qu'on est plusieurs lauréats à être issus de l'école de paysage de Versailles. Là. Par contre, d'un point de vue technique, je trouve que l'école de Blois s'en sort très bien aussi.
Oui.
Historiquement, l'école du paysage de Versailles, mais si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la première. À la base, c'était l'école d'horticulture qui s'est transformée en école du paysage.
Ouais.
Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a son, son côté prestigieux. Après, aujourd'hui, en fait, chaque école du paysage, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais a ses spécificités. L'école de Versailles étant, je pense, le rapport à la géographie, peut-être, et le rapport à l'art aussi.
Oui, à l'histoire.
Et à l'histoire aussi.
Et à l'histoire, oui, effectivement. Ouais. Art, histoire, géographie, j'ai l'impression que c'est les trois fondements un peu de notre formation.
Mm.
Mais je ne dirais pas qu'il y a des écoles qui sont forcément plus prestigieuses. C'est seulement qu'elles ont leurs spécificités qui leur sont propres. Marseille, plus portée sur le vivant, j'ai l'impression. Même
et sur le climat méditerranéen, ça c'est nul.
Ouais,
sur l'écologie du Sud.
L'écologie du Sud, sur l'opérationnalité aussi, j'ai l'impression. Un côté un peu plus opérationnel à Marseille. Oui. Bordeaux, j'ai l'impression, très porté sur
l'architecture, plutôt.
Effectivement, plus d'échanges avec les écoles d'architecture. Et je connais un peu moins, mais...
En fait, faudrait toutes les faire.
Effectivement, faudrait toutes les faire.
Oui.
C'était une petite plaisanterie. Vous êtes diplômée. Alors, quand et comment avez-vous commencé votre activité? Parce que je crois que c'est encore récent, mais...
Ben, j'ai commencé avant toi, pour le coup.
Oui, c'est vrai.
J'avais un an d'avance sur toi. Alors, moi, je suis partie directement en agence de paysage. J'ai fait mes premières armes au sein de l'agence D'ici là, Paris. Quand même avec des échelles d'intervention de projets qui sont assez généreuses. Après, c'est vrai que j'avais en tête une autre agence à l'époque. Et voilà, j'avais postulé. Mais on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour le moment. Donc... j'étais partie chez D'ici là et ça s'est très bien passé, il n'y avait aucun problème. Et quelques mois plus tard, c'est l'agence Altitude 35 qui m'a recontactée, qui m'a dit qu'ils avaient une petite place. Donc moi, c'était dans mon ambition d'aller chez eux par réciprocité de la manière dont on conçoit le projet, les réflexions qu'on y porte, les échelles d'intervention et surtout pour la question de la représentation qui est très importante pour moi, qui s'est sans doute vue sur notre Europan d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai dit oui tout de suite, et ce qui fait que je suis toujours chez eux actuellement. Donc voilà, je salue Clara et Benoît, s'ils passent par là.
Clara Loucal et Benoît Barnou, qui sont également triple lauréats Europan.
Ouais, qui sont passés par Europan, et c'est Europan de leur site Besançon qui les a propulsés notamment.
Ouais,
t'as fait combien de temps?
Bah, ils ont monté l'agence il y a 5-6 ans maintenant. Mm-hmm. Donc,
toi, ça fait 2 ans que tu y es?
Ouais. Ça fait à peu près 2 ans.
Ouais, donc ça reste très récent.
Ouais.
Il faut qu'ils viennent nous voir, là, comme d'archi.
Ah bah oui, ils auront des choses à dire, je pense.
Des choses à dire, oui, effectivement.
Alors et vous, Olivier?
Mais moi, du coup, j'ai terminé mes études d'architecture il y a 2 ans, à peu près. Et en fait, en parallèle de ma deuxième année d'architecture, du coup, j'ai participé avec des amis à Europan 16. On avait participé sur le site d'Auneuil. Et du coup, au cours de la deuxième année, en fait, on a été lauréat de cette session Europan 16. Ce qui fait qu'en fait, en sortie d'école, j'ai concilié les suites d'Europan 16 et une pratique en agence, qui est l'agence TN+, dans laquelle d'ailleurs je suis encore actuellement. Donc Jean-Christophe Nani, directeur de l'agence. Et donc, oui, je conciliais les études qui viennent souvent après en fait, une victoire à Europan, qui sont des études qui visent souvent à rendre un peu plus opérationnels les projets qui ont été émis, à rencontrer aussi les autres équipes qui ont pu gagner des prix sur les sites, et ensuite de mener une étude qui va permettre derrière d'avoir des marchés plus conséquents, plus classiques de maîtrise d'œuvre, d'accord cadre.
Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Alors, bon, c'est très récent, donc vous allez forcément pas répondre de la même manière que les vieux de la vieille, on va dire. Mais quand vous êtes sorti de l'école, vous avez dit, tiens, je gagnerai Europan. Peut-être que oui.
Oula.
Non.
Alors, moi, pour ma part, je pensais pas du tout participer à Europan aussi rapidement.
Ouais.
En réalité, et c'est toi qui m'as donné l'idée, parce que toi tu l'avais déjà fait sur la session précédente. Après toi, je sais pas si c'était...
Europan, c'était pas forcément un objectif, enfin c'était pas une finalité, c'était juste que c'était un moyen de travailler avec des gens que j'appréciais, avec des amis, sur des sujets qui m'intéressaient. Évidemment, enfin c'est pas des... y a un côté assez prestigieux aussi dans Europe 1 qu'on allait chercher évidemment là-dedans, mais c'était surtout travailler avec des amis avec lesquels d'ailleurs j'avais déjà travaillé avant, en tout cas pour Europe 1 16. Donc c'était surtout ça. Après, accomplir, est-ce qu'on a accompli à peu près la même chose qu'on... Enfin, ce qu'on voulait en sortant de l'école? Moi, j'ai l'impression que mes envies changent tous les mois en termes de... sortant de l'école, j'étais plutôt dans le côté, je pense, études, grand paysage, grand territoire, dans des côtés finalement assez peu opérationnels. Et là, au fur et à mesure de ma pratique en agent, je me rends compte qu'en fait, j'ai plutôt une sensibilité du côté opérationnel, de la maîtrise d'œuvre, peut-être moins du côté études. Peut-être contrairement à toi, d'ailleurs.
Oui, moi, je prends le virage complet, contrairement à toi. Moi, c'est pour le coup, c'est... plus la question de l'étude qui m'intéresse, du diagnostic, du récit en fait qu'on apporte à la dimension du projet, parce que ça a quand même un impact dans la manière dont on concilie tous les acteurs du projet. Il y a quelque chose qui rassemble en fait dans le récit, que moi je trouve très importante, et c'est ça qui a été complémentaire aussi entre nous, parce que toi tu avais cette dimension peut-être plus pratique.
Et ça vous fait peut-être, Olivier, aller plus en profondeur sur le vivant. Et c'est peut-être ça qui vous motive.
Oui, effectivement, le vivant, moi, chez moi, c'est quelque chose qui est très prenant. Après, finalement, je suis en train de me dire que quand on a commencé Europe en 17, j'étais pas forcément dans ce côté opérationnel. J'étais encore dans cette espèce de jeunesse, de sortie d'école, grand territoire, penser tout de suite... à aller chercher plus loin, à comprendre le sol, à comprendre la géologie, la géographie. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose qui reste, même si... Mais après, est-ce qu'il y a moyen de la ramener dans un côté opérationnel? Je pense que oui.
Ah oui, complètement.
Mais oui.
Bah, je sais pas, en archi, on dit que c'est sur le chantier qu'on apprend le plus.
Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma pratique, là. J'étais N+, parce qu'en fait, j'ai pu personnellement toucher à... une très grande variété de phases et de types de projets assez différents, assez particuliers d'ailleurs. Notamment un projet pour la reforestation de la forêt des Landes suite aux incendies de 2020, c'est ça ? Non, 2021, je ne sais plus.
Plus tard,
Et plus spécifiquement en fait sur les campings qui avaient brûlé, notamment les flots bleus.
C'est pas 2022 carrément?
Je crois que c'est
oui,
assez
c'est
récent,
ça, c'est 2022.
Oui. En fait, c'était pas l'été dernier, mais avant.
Oui, ouais, c'est exactement.
Ça. C'est il y a un an, un peu plus d'un an. Et c'est assez chouette parce que c'est un projet du coup que j'ai mené en étude et qui aujourd'hui est en suivi de chantier et que je menais pas tout seul parce qu'évidemment j'étais en collaboration notamment avec Jean-Christophe Magny, mon directeur d'agence. Mais j'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce que finalement j'ai pu aller aussi bien dans de l'étude, de la compréhension de... Là, c'était des problématiques forestières. Donc, comment est-ce qu'on reforeste Comment est-ce qu'on vient... la forêt des Landes a des problématiques qui lui sont propres, notamment de diversité en termes de milieu. C'est une forêt qui est souvent assez monospécifique, du pin, avec du coup des problèmes évidemment d'incendie et puis, par la suite des problématiques aussi d'invasifs, par exemple.
J'avais entendu que, en fait, la manière d'éviter que les feux se propagent, c'est de créer des fossés.
Les coupe-feux, les fossés en partie.
Et que là, ça avait pas été fait ou voilà.
Il y a beaucoup de raisons derrière les incendies qui ont été, enfin, assez dévastateurs. Il y a des fossés, ce qu'on appelle des coupe-feux. En fait, c'est des coupes rases sur presque 30 mètres de largeur. Qui n'était pas forcément entretenu, mais c'est aussi le fait que c'est une forêt monospécifique de conifères, de pins maritimes, qui fait que le pin maritime brûle extrêmement bien et a notamment, dans son code génétique, en fait, et favorise même la prise du feu. Parce que c'est comme ça que les épis de pin viennent lâcher leurs graines, s'ouvrir.
Et puis la résine retient la chaleur.
Effectivement. Donc, une manière de lutter contre le feu, c'est de lutter contre le monospécifisme des forêts, c'est de réapporter de la diversité dans la végétation. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi, d'ailleurs, au travers du camping, notamment.
Mais on peut ramener des feuillus avec le climat ?
Oui, bien sûr. C'est aussi ça, effectivement, la problématique du changement climatique, la modification de nos espèces forestières, de leur adaptabilité aussi au futur climat de sécheresse. Mais en fait, historiquement, les forêts, là, notamment, bon, si on parle de la forêt des Landes n'était pas une forêt monospécifique de pins maritimes. Le pin maritime était présent, mais c'était aussi une forêt où il y avait beaucoup de chênes, chênes verts, chênes pubescents. Et donc, effectivement, on peut ramener des espèces comme ça de chênes qui sont, eux, pour le coup, assez adaptés au feu, qui repoussent en tout cas après les feux, contrairement aux pins d'ailleurs.
Alors, pour vous, ça a été formidable de travailler sur un sujet d'actualité qui touche vraiment, en plus, qui permet de se projeter loin, parce que ce sont des vrais sujets aujourd'hui, l'inondation, le feu.
Ouais, effectivement. Ouais, c'était des sujets, c'était un peu dans la continuité finalement des sujets que j'avais abordés à l'école du paysage. J'ai l'impression qu'à l'école du paysage, on a sujets qui reviennent. Il y a les problématiques d'inondation, problématiques agricoles, problématiques forestières. Là, on était plus dans des problématiques forestières et aussi problématiques de sédimentation, parce qu'on a la dune qui avance et qui fait qu'il avance, en fait, qu'il grappille sur le camping. Et donc, il fallait prévoir le repli du camping et des stratégies qui visaient à ce que le camping fonctionne, alors même que la dune grappille sur des emplacements. Ouais, c'est ces problématiques-là, oui.
Donc, vous avez travaillé sur quelque chose d'un peu plus nomade, entre guillemets.
Oui, il a fallu effectivement travailler sur des strates d'habitat, du plus léger au plus lourd, allant du plus léger sur les espaces qui seront les premiers impactés par le déplacement de la dune, au plus lourd, ceux qui sont le plus loin, effectivement.
Bon, je connais le sujet parce qu'en fait, j'ai, dans un jury dans lequel j'ai été appelée en tant qu'invitée extérieure, j'ai eu ce projet-là.
Ah,
d'une étudiante.
Super.
Assez brillante.
Très chouette. Très chouette. Un jury de PFE ?
Un jury de PFE.
D'accord. Super chouette.
On est déjà rentré dans le projet. Est-ce que vous voulez aborder maintenant votre projet Europan ?
On peut, oui.
Allez.
Alors, le projet Europan... Alors, pour le coup, on s'est décidé sur un site auquel on n'avait pas l'habitude de répondre. Parce que toi comme moi, on est plutôt sur des dynamiques avec la notion de risque, en fait. Tout ce qui disparaît, tout ce qui est amené à se transformer avec le dérèglement climatique, avec la submersion marine, ça c'est des sujets que nous on portait jusqu'ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu vent d'un site européen pour la base aérienne 112 à Reims. Et c'est vrai que sur le coup, on a tapé sur l'ordinateur une vue aérienne de la base. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à faire. Parce qu'en fait, on a dézoomé tout de suite. Ça, c'est peut-être un réflexe de paysagiste, pour le coup. On a dézoomé, on a regardé la carte du territoire, ne serait-ce qu'en vue aérienne, hein, vue satellite. Et là, on a vu une composition territoriale complètement admirable. Enfin, il y avait cette courbure géologique qui tout de suite nous a parlé. On s'est dit que là, il y aurait un enjeu, ne serait-ce que pour le sol, et donc la notion de vivant à entreprendre. Et pour le coup, on a eu ce réflexe qui s'est affirmé par la suite, parce qu'on a eu déjà tout un discours porté sur la géologie et la géographie de ce site assez singulière. En fait, là, on est sur un site à composition géologique crayeuse, donc calcaire, avec très peu de sol. En fait, on est sur un territoire à dynamique agricole qui, de base, n'a pas les paramètres pour accueillir cette agriculture. Ce qui fait qu'il y a eu un amendement très conséquent à l'échelle du territoire pour permettre cette agriculture. Nous, on est parti du postulat de dire que, en faisant attention déjà là et à la composition primaire du sol, on avait la question du vivant qui allait mettre en lumière ces contraintes-là, des contraintes notamment liées à la diversité des milieux présentes à l'échelle du territoire. Parce que si on regarde à l'échelle donc dézoomée, on voit qu'on a le bassin parisien qui a des continuités écologiques très riches. On a la Champagne humide, l'Argonne, qui en a également. Et en fait, on a cette base aérienne qui se situe dans un couloir de la Champagne crayeuse où il n'y a absolument aucune unité paysagère forte, quoi, hormis les cours d'eau qui ont été un peu notre fil rouge pour relier un petit peu toutes ces unités et relier, créer un corridor écologique majeur à l'échelle du territoire dont la base faisait partie.
C'était pollué ? Enfin, c'est pollué ?
La base...
Logiquement, ça devrait l'être parce qu'il y avait quand même une activité aéronautique dessus.
probablement des écoulements.
Plus l'agriculture environnante avec la question de l'écoulement et du ruissellement des eaux polluées, forcément.
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Sachant que, en fait, effectivement, ce qui nous a frappé sur le territoire, c'est que immédiatement, c'est une problématique agricole qui ressort. On voit que c'est une base qui est entourée par l'agriculture.
Ouais.
Et au vu des enjeux agricoles de demain, que sont l'adaptation des cultures au dérèglement climatique, c'est vrai que il apparaissait que la base 112 devait avoir un rôle là-dedans.
Un rôle stratégique, en tout cas.
Un rôle stratégique, effectivement.
Dans la mutation des usages du sol.
Ouais, dans les mutations.
C'est comme ça qu'on l'a conduit, d'ailleurs, dans notre projet. On a construit tout le discours.
Et votre proposition, alors ?
Oui, alors notre proposition, quand on a fait cette analyse-là à l'échelle territoriale, on a eu un réflexe aussi de se concentrer sur l'historique de cette base et ce à quoi elle était rattachée. Et c'est vrai que sur le coup, on s'est rendu compte que on avait une proposition à faire sur cette base, mais que cette base avait eu ultérieurement un rôle à jouer dans l'activité d'autres bases. En fait, cette base est reliée à une dizaine d'autres points satellites. Et donc, notre postulat était de dire que la proposition qu'on ferait dans tous les cas pour cette Europan serait une proposition qui agirait comme rôle modèle pour l'ensemble des autres bases satellites. Mmh. Un petit peu comme un projet processus, en tout cas, à mettre en place.
L'idée aussi, c'était de se dire que il y avait très peu de continuité écologique à l'échelle du territoire, à part sur les cours d'eau dont on a parlé un peu avant, qui sont finalement assez ténus quand on regarde une carte un peu plus dézoomée. Et on voyait en fait ce chapelet de base qui justement s'étendait à travers la Champagne crayeuse et qui du coup offrait potentiellement, si elles étaient transformées, un réseau potentiel de continuité écologique.
Et de biodiversité.
Et plutôt du coup de réservoir de biodiversité.
Donc en fait ce que vous êtes en train de dire c'est que des bases militaires, je me dis bien des bases, deviennent des réservoirs écologiques.
Exactement.
C'est ça, oui. Et qu'en fait, les bases en elles-mêmes, le programme des bases, qui était du coup un programme tourné autour de l'agriculture et de la transition agricole, allait permettre de faire le lien entre justement ces bases par la transformation de l'agriculture et par l'injection de la problématique du vivant à l'intérieur de l'agriculture et de l'agriculture notamment qui se développe entre ces bases.
Et alors, ces bases qui deviennent des bases écologiques, elles filtrent ?
Il y a cette dimension-là, oui, parce qu'on a intégré la gestion hydraulique des sites.
Ça filtre, ça permet aux espèces de reprendre de la vivacité, on va dire ?
Oui, parce qu'on a analysé aussi que la base se situait en fait dans des couloirs de migration pour les oiseaux, et d'ailleurs toutes les bases. Les dizaines de points sont rattachés à cette migration-là. Donc, en plus d'avoir une diversité de milieux et de concevoir un processus de renaturation des sols, il y a aussi cette question de créer ces niches biologiques aussi pour la faune, en fait, en place.
Oui, c'est ça. En fait, en créant une diversité de milieux, derrière, on vient créer une diversité d'habitats potentiels pour une diversité de faune derrière, conséquente.
Alors, votre projet s'appelle Solstice ou le contrat vivant.
Oui. Le titre était une longue réflexion pour nous. En fait, pendant 3 mois, on s'est posé la question de comment on allait appeler ce projet-là. Ce qui s'est passé, c'est que, en parallèle de mon activité, mon agence, je fais pas mal de recherches sur pas mal de sujets. Et j'aime beaucoup écrire. Et je cherchais absolument à avoir un fil conducteur pour la mise en récit de notre projet. Et Rousseau est intervenu. Alors, c'est un petit peu flou la manière dont je l'ai récupéré, ce sujet.
Rousseau, mais... Jean-Jacques ?
Exactement.
Oui, Jean-Jacques, oui. Beaucoup Jean-Jacques. Big up.
Et donc, je lisais un petit peu le résumé du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et en fait, on s'est dit que tout était résumé, en fait, pour notre projet, dans cette manière de concevoir un bien commun qui allait être partagé par tous les acteurs du territoire et du site, aussi bien humains que non humains. Et donc, au lieu d'appeler ça le contrat social, on a appelé ça le contrat vivant. Et pour apporter une dynamique encore plus forte sur la saisonnalité, les cycles du vivant et toutes ces choses-là, on a ajouté le terme solstice, qui fait référence justement à cette permutation entre le temps jour, nuit, l'équinoxe, le solstice, avoir ce rapport à l'année et aux saisons.
Parce qu'en fait, les saisons régissent énormément le monde vivant. Et donc, c'était aussi l'idée de se dire qu'on réinjectait aussi un peu de ce facteur saisonnier à l'intérieur du projet.
Et alors, si demain, on vous dit « Ok, banco, ça se réalise », qu'est-ce que ça implique comme travaux ?
ça implique forcément une considération des milieux qu'on va mettre en place, mais de l'architecture aussi qu'on va traiter sur site. Parce que là, actuellement, on a quand même plus d'une dizaine de bâtiments à réhabiliter. Alors, heureusement, pour nous, on a aussi un autre projet lauréat sur le même site. Donc, on va quand même multiplier les compétences sur le sujet. Mais en fait, au lieu de ne penser qu'aux espaces paysagers, il y a aussi cette question de la réversibilité d'usage du bâti, avec justement des espaces qui ne seraient pas forcément traités de la même manière en hiver comme en été. Et c'est notamment le cas pour les ateliers.
En fait, c'est l'idée du solstice, c'était de parler de la saisonnalité. La saisonnalité, c'est comme je l'ai déjà expliqué, c'est un point qui est très présent dans le monde du vivant, mais qu'on voulait aussi réinjecter dans l'architecture. Et de dire, en fait, on a un patrimoine architectural avec assez important, il y a énormément de surfaces de plancher, et d'une manière aussi très prosaïque. En fait, si on devait isoler toute cette surface de bâti, réhabiliter toute cette surface de bâti, en fait, c'est pas forcément faisable dans une démarche, en tout cas, énergétiquement durable, quoi. Donc l'idée, c'était de se dire que justement, par la saisonnalité dans l'architecture, c'est-à-dire des espaces qui sont, par exemple, pas forcément utilisables en hiver, mais qui en été, en hiver, on a une surface de plancher qui est de, je sais pas, de 200 mètres carrés, un peu le cœur du bâti, et qui en été passe à 400, 600 mètres carrés, avec des espaces de stockage l'hiver et peut-être d'ateliers l'été. Ça nous permettait aussi derrière de relier l'idée de cette architecture aux saisons, le relier aussi à un monde vivant et un monde qui évolue en fonction des saisons, et surtout d'avoir un impact aussi assez léger sur toute la réhabilitation de ce bâti. C'était ça l'objectif. Et donc, on avait plusieurs exemples. On avait l'exemple d'atelier qui était justement avec un espace de stockage qui devenait un espace d'atelier. On avait la maison du parc.
Qui est un espace un petit peu conçu comme peut-être une pépinière en hiver et un espace d'exposition en été. Il y avait les logements aussi saisonniers, étudiants et de recherche qui étaient couplés au même endroit.
Ouais, et là, les jardins, là, c'était l'idée du jardin d'hiver, l'idée de l'espace pas forcément isolé, mais en même temps une espèce de loggia qui permettait d'avoir des usages en été et en hiver différents.
Et vous les avez déterminés, ces usages, ou non? Vous n'êtes pas rentré dans ce détail de programmation?
Non, on n'est pas rentré dans un détail aussi.
Okay. On se laisse une marge pour la suite.
Oui. Et donc, vous réinjectez, vous replantez des espèces, comment?
Oui. Alors oui, notamment à la création de milieux, parce qu'en fait, on a décortiqué tous les paramètres qu'on allait mettre en place pour donner à cette base le statut de parc agricole, en fait, à l'échelle du Grand Reims. Et donc pour ça, on avait décortiqué tous les paramètres de la gestion hydraulique qui étaient liés à la topographie naturelle du site, qui, elle, indiquait la direction des cheminements qu'on allait aussi générer dans ce parc. De ces trames-là, on en déduisait les trames de plantation aussi qu'on allait mettre en place. Des plantations qui allaient, elles, créer des continuités de sol, parce qu'en fait on a remarqué que dans la création de la base, il y avait eu des fractures sur les continuités géologiques du sol. Donc on a déterminé des emplacements spécifiques de plantations qui, avec le système racinaire, pourraient régénérer ces continuités écologiques dans le sol, par exemple. Et voilà, c'était...
Il y a beaucoup d'asphalte?
Ça, je ne sais pas.
Si, ouais. En fait, il y avait également, ouais, c'est vrai...
Une imperméabilisation.
Il y en a, oui.
Une désimperméabilisation du site. Mais en fait, c'est vrai que c'était surtout cette idée de regarder la topographie, enfin la géologie, la topographie, et ensuite de déterminer où est-ce que naturellement l'eau vient s'écouler. Et donc, à ces endroits, par exemple, humides, quel type de végétation on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut venir créer des milieux en désimperméabilisant une petite partie, voilà.
Et quel vivant ça viserait aussi?
Et du coup, quel type de vivant, quel type de faune pourrait y être associé? Là où il y a des endroits qui étaient un peu plus secs, moins impactés par l'écoulement des eaux. Et donc là, un autre type de végétation et derrière d'autres types de vivants et aussi d'autres types d'usages.
Et d'usage du sol, parce qu'il y avait cette question de multiplier les modes d'agriculture sur site. Avec les assolements l'assolement triennal qu'on met en place. Sachant qu'on a la micro-ville 112 qui est sur site et qui développe déjà une forme d'agriculture plus respectueuse sur le sol. Nous, c'est une agriculture qu'on encourage de toute manière.
Avec un an de jachère et après, on change.
Exactement. Oui. Exactement. Donc, voilà.
C'est aussi ça qu'on a remarqué, c'est que en fait, il y a déjà, le site est déjà dans une démarche de transition agricole. Il y a effectivement des acteurs comme le Microville 112 qui mettent en place des expérimentations visant à modifier l'agriculture, en tout cas à la rendre plus durable. Et donc le projet, il visait aussi à soutenir en fait ce développement et justement à lui permettre par la réhabilitation du bâti ou voilà de se développer et de prendre plus d'importance peut-être.
Donc finalement il y a trois aspects. Il y a l'aspect bâtiment, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a l'aspect régénérescence écologique, on va dire, et soutien à l'activité agricole.
Oui, ouais, la transition agricole, ouais.
Mais qui est lié aussi du coup à la réhabilitation du bâti, parce que c'est un programme qui est lié les
D'accord.
deux
sens, quoi.
Ok. Oui, tout interagit en fait. Hein,
oui, c'est vrai. Ouais. Difficile. Hein.
Mais c'est parce que vous êtes plongé dans votre projet encore.
Oui.
Ah oui, oui.
Oui, effectivement.
Donc après, il y a besoin parfois de rationaliser.
De rationaliser, voilà. Bien sûr.
Pour nos auditeurs, pour qu'on soit sûr d'avoir tout bien compris.
Oui.
Vous vouliez conclure sur ce projet ?
Toi, t'as un esprit synthétique. T'es assez fort là-dessus.
Bah, synthétiquement, c'est un projet qui vise à saisir l'opportunité, on va dire, d'un développement de continuité écologique à l'échelle du territoire. Enfin, c'est un projet multiscalaire. À l'échelle du territoire, c'est la continuité entre les bases. Et ensuite, à l'échelle de la base, comment est-ce qu'on vient justement... rapporter des réservoirs de biodiversité à l'échelle de la base. Donc là, il faut regarder la topographie, la géologie, le bâti, où est-ce qu'il y a la place aussi de développer ce genre de continuité. Et ensuite, le programme, lui, vient répondre à une problématique qui est le territorial, problématique de l'agriculture, et aussi à ce qui est déjà là. Et donc là, par exemple, c'était la microville 112, tournée autour de l'agriculture. Voilà, je pense que c'est ça. Okay. Je veux synthétiser.
Oui, mais alors, il y a un tout petit paramètre aussi qu'on a oublié de préciser, c'est que la base 112, du coup, va permettre de créer, donc générer un parc agricole qui, lui, va, pour le coup, s'inscrire dans une continuité de squares et de parcs déjà existants à l'échelle du Grand Reims. Ce qui fait qu'on va avoir une double continuité. On va avoir la continuité du système de parcs, donc à l'échelle du Grand Reims, et on va avoir la continuité écologique avec le canal de l'Aisne à la Marne, qui vient ensuite se greffer sur le système paludéen, donc avec des marais, en fait,
l'échelle
de la Marne.
Oui, c'est vrai, c'est très complexe, mais effectivement, ouais. Il y a cette échelle. En fait, entre l'échelle du territoire et l'échelle du site, de la base, il y a effectivement une échelle intermédiaire, ouais. Qui est l'échelle du Grand Reims, et notamment des parcs qui l'entourent, et de la manière dont on peut créer en fait un système de parc dans le Grand Reims en incluant justement la base là-dedans. Mm. Ce que tu disais, c'était via justement par exemple le canal de l'Aisne qui permettait aussi de fabriquer des mobilités qui permettaient des connexions entre ces parcs.
Et d'avoir une véritable connexion au canal qui est un petit peu oublié, mis de côté pour ouais. le coup. Ça avait été une demande de la part d'Europan de révéler un petit peu ce canal-là aussi au sein de la base.
Canal qui borde la base, mais qui finalement lui est assez déconnecté parce qu'il y a quand même une autoroute. Non, c'est pas une autoroute, pardon, une voie ferrée qui passe entre les deux.
Il y a les deux, je crois.
Ouais, je crois qu'il y a autoroute plus voie ferrée. Donc c'est pas...
Bon, alors c'est formidable de vous sentir très impliqué comme ça dans ce projet de territoire résilient. Vous avez l'avenir devant vous. Votre métier fait qu'il faut projeter sur des temps longs. L'actualité est sinistre, peu importe la chaîne d'infos sur laquelle on se branche le matin.
Oui.
On a plutôt envie de mettre le bouton sur off en permanence.
Ou écouter des podcasts.
Voilà. Qui, pour le coup, merci beaucoup, nous revigore.
Oui, voilà.
Et quel éclairage vous auriez envie de donner à tout à chacun pour appréhender ce monde, pour redonner de l'impulsion ? Vous êtes dans un métier qui projette, donc comment donner à tout à chacun cette envie de se réancrer dans un avenir ?
Alors moi, je vais rapporter des dires d'une rencontre qu'on a fait qui a été majeure dans notre manière de concevoir le projet. On a eu la chance d'être encadré par le paysagiste Bruno Tannan, qui disait quelque chose de très vrai sur la notion de risque et de disparition. Qui disait qu'en réalité, rien n'est amené à disparaître, mais à se transformer, et que si on arrivait à déceler ces clés, ces paramètres-là de transformation, et qu'on arrivait à les impulser dans le projet et dans une vision d'avenir qui apportait aussi de l'espoir, tout de suite, on avait cette dimension de de s'engager dans une voie peut-être plus vertueuse, plus...
Optimiste.
Optimiste, ouais, complètement.
Bah, je pense qu'il faut, il faut éviter de tomber dans un fatalisme.
Il ne faut pas renoncer.
Et puis, évidemment, l'actualité est terrible, mais je pense que l'homme a toujours fait face à des crises au cours de son époque. Chaque époque a ses crises. Donc, effectivement, nos crises actuelles nous paraissent plus importantes que les crises passées. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément d'échelle dans la crise. Oui. C'est des crises aujourd'hui.
Il y a des solutions, quoi qu'il arrive.
Effectivement. Oui. Et là où, du coup, notre métier a du sens, c'est que justement, on travaille, en tout cas plus précisément sur les crises liées au changement climatique. Et on essaye effectivement d'avoir un optimisme et un optimisme dans la vision de se dire que tout ne va pas disparaître. Effectivement, il va y avoir des transformations qui vont avoir un impact sur nos modes de vie aussi. Sur nos modes de pensée, sur nos modes de vie, nos modes de consommer surtout. Mais il faut le prendre aussi justement avec optimisme, c'est-à-dire que ce n'est pas fataliste, c'est seulement la société qui évolue, le monde qui évolue. Et là où c'est intéressant, c'est que justement, les écoles du paysage, mais d'architecture aussi, nous forment à la transformation, à l'évolution, à la réhabilitation en architecture.
Et à la manière dont on le présente.
Et à la manière dont tu le présentes, effectivement, toi, c'est assez présent chez toi, la question de la représentation.
Ouais, en fait, il faut avoir sans cesse cette envie d'exercer une sensibilité commune qui peut vraiment interpeller tous les corps de métier, tous les acteurs du territoire, pour donner ce mouvement collectif, global, en réalité, qui rassure aussi. Avoir ce sentiment de groupe qui avance. Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir les mots, il faut avoir les images pour montrer ça. Il faut montrer un entrain, en fait, à cette évolution.
Oui, il faut savoir entraîner dans le bon sens. Vous venez de sortir de l'école. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux étudiants là, qui arrivent dans les écoles de paysage?
Alors, moi, je conseille de... trouver, alors ça va être un peu bateau dit comme ça, mais trouver sa place. Et si on sent qu'on n'a pas trouvé sa place, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de partir. Même si c'est flou, même si... Je pense que quand on est rempli de convictions, d'une fougue en soi, qui est quand même... quand on sort de l'école, elle est là, en fait, cette fougue. Et je pense qu'il ne faut jamais la laisser tomber. C'est un moteur, en fait, dans la manière de faire projet, de penser. Et quand on sait ce qu'il nous faut, il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi.
Mais souvent, en sortant de... enfin, moi, c'était le cas en sortant d'école, je savais pas trop quoi faire, quoi.
Ah bah oui, ça aussi.
Et je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer, plutôt notre pratique évolue en fonction des expériences, différentes expériences qu'on a eues, aussi bien à l'école que professionnelle derrière. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer, de se tromper. C'est pas grave si l'agence dans laquelle on a travaillé, elle est pas faite pour nous. C'est pas grave si l'agence tout court, c'est pas fait pour nous. Peut-être qu'il y a d'autres manières aussi de pratiquer le métier.
Ouais, complètement.
Pas grave si cet atelier, je ne m'y suis pas retrouvé, mais que celui-là, peut-être un peu plus. Il faut aussi trouver, justement, le paysage, c'est une discipline assez large qui touche à des problématiques qui sont très larges et qui, donc, derrière, ont des débouchés qui le sont, assez finalement. L'agence, c'est évidemment ce qu'il y a de plus simple en sortant, c'est ce qu'il y a de plus clair, en tout cas.
Plus accessible.
Plus accessible, ouais. Moi, il y a quelques amis, même beaucoup de mes amis qui sont partis en indépendant derrière, qui... qui galère, ça c'est clair.
C'est un risque.
Oui. Hein. Ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont soutenus aussi financièrement parfois par leur famille.
Par leurs proches.
Ils sont accueillis, par exemple, ils n'ont pas le loyer à payer, par exemple, ce genre de... qui donc derrière peuvent avoir une pratique seule,
en fait, ils prennent plus de risques. C'est-à-dire qu'ils font des propositions plus affirmées, qui rentrent moins dans les codes, dans les règles classiques. Et c'est ce qui engage aussi des sorties d'étudiants qui osent, en fait. Et ça, pour nous, c'est assez admirable. Enfin, nous, on prend exemple sur ces choses-là.
C'est admiratif. Ouais. Ce qui n'a pas été notre cas, d'ailleurs. Au final, on a...
Nous, on est restés dans une forme de confort, quand même.
Dans une forme de confort qui est le confort de l'agence.
Mais c'est une autre manière d'apprendre le projet,
complètement.
Aussi.
Bien sûr. Et je pense que c'est assez complémentaire. Je pense que c'est important, même si un jour, on s'imagine partir à son compte, c'est hyper important d'être passé aussi en agence et d'avoir...
D'avoir les bases.
Avec un travail d'équipe.
Oui, bien sûr. Ouais.
Quotidien. Qui est peut-être contraignant, mais qui aussi, quand on sait dépasser son univers propre, ce plus grand que soi est important aussi. De savoir le travailler au quotidien.
En tout cas, les étudiants, il ne faut pas qu'ils aient peur d'essayer. Si t'as se trompé, ce n'est pas grave. Et
puis ça dépend des tempéraments. Il y en a qui sont plus faits pour être très indépendants et
Oui, c'est vrai.
Et d'autres qui ont besoin, et puis parfois on n'a pas le choix. La sécurité doit...
Exactement, bien sûr. Voilà.
Oui. Nous, c'est vrai qu'on a le choix, on a cette chance-là. Hein.
Mais même quand on n'a pas le choix, on apprend dans ce non-choix.
Ouais.
Et peut-être qu'on a envie justement de s'affranchir de ça, de ces contraintes-là. Donc, bon, en tout cas, qu'est-ce que vous diriez en mot de la fin ?
Qu'il faut donner du temps au temps, ça c'est évident.
Le temps du projet.
Ouais. Qu'il faut avoir confiance.
Eh bien, le podcast qu'on a enregistré juste avant, avec des personnes assez mûres dans leur pratique, sur une discipline différente de la vôtre, disait exactement la même chose.
Ouais, mais ça, c'est, je pense que c'est commun à tous. Hein.
Ouais, je suis d'accord.
Et puis, il faut se faire confiance.
Je sais pas quoi dire, hein, franchement. Hein.
Un mot de la fin.
Qu'est-ce que vous auriez envie que Europe 1 soit réalisé?
Ouais, bien sûr.
Vous avez envie de créer votre propre agence, tous les deux?
Non. Pas d'agence pour nous. On admire les personnes qui montent des agences, on voit le mode de vie que ça implique. C'est des métiers passion, hein, de toute manière. Après, c'est vrai que, pour ma part, moi, j'envisage plutôt de partir dans la recherche. Donc forcément, ça diffère. Toi, tu...
Moi, la maîtrise d'œuvre, pour l'instant, je suis... En tout cas, là... Ce mois-ci, je suis à fond là-dedans.
Oui, TN+.
Mais
plein d'envie, encore.
Plein d'envie. Après, peut-être un jour être indépendant, pourquoi pas, mais...
Pas maintenant.
Et monter une agence avec les responsabilités derrière salariale, par exemple, c'est pour l'instant inenvisageable. Et quelque chose dont je n'ai pas forcément envie.
Mmh. C'est peut-être pas le moment non plus.
Mais c'est pas le moment, et peut-être qu'un jour je l'aurai. Mais là, en tout cas, pour l'instant, nous deux... On est très contents en tant que salariés, on développe nos armes, on apprend franchement tous les jours et toutes les semaines sur la diversité des sujets auxquels on traite, et aussi bien dans l'urbanisme, dans le côté opérationnel. Mm. Chaque phase est très différente et chaque phase, on a l'impression, on se dit « oh là là, mais on ne sait rien faire ». Alors qu'en fait, j'ai l'impression quand même que... Évidemment, il y a des côtés dans notre formation qui ont été plus développés que d'autres. Mais j'ai l'impression que, quand même, peut-être en mot de la fin, l'école nous a permis d'acquérir cette plasticité cérébrale qui fait que derrière, on peut s'adapter à des situations qui sont parfois complexes, sur lesquelles on n'a pas été formé, mais auxquelles, finalement, on a développé des outils pour y répondre. Moi, c'est ce que j'ai vu derrière, peut-être, la manière dont j'ai pu transposer ma démarche de projet de paysage en architecture. J'ai trouvé qu'au final, ces deux métiers ont la démarche de projet assez similaire, avec par contre des cultures assez différentes. J'ai l'impression que c'est ce qui les diffère. C'est un métier finalement qui se ressemble, mais dont la matière première n'est pas la même. Et en fait, finalement, j'ai pu assez facilement transposer ma démarche de projet en architecture. Après, il fallait comprendre la culture et comprendre de la technicité différente. Et cette manière de transposer ce qu'on a appris en école, j'ai l'impression qu'elle se transpose aussi dans pas mal de sujets dans notre pratique. Tu vois. Dans le suivi de chantier, en fait, même si on n'y est pas formé, en fait, on est formé à répondre à des problématiques, on est formé à comprendre, à réagir. Tu vois.
Ouais. Bon, ce sera le mot de la fin.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour votre... témoignage riche, on aurait pu parler toute la journée, je crois.
Ouais, c'est clair. On a du travail.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que ces esprits frais et en pleine plasticité vous auront inspiré. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.